Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, ça chauffe à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Oui, plus précisément à Tijuana, tu sais, c'est au sud de la Californie, et on attend environ 10 000 immigrants qui viennent, on le sait, du Salvador, du Honduras, bon, qui remontent cette colonne de personnes. Ils commencent à arriver à Tijuana. Et les gens sont pas contents à Tijuana.
Les résidents de Tijuana sont
pas vraiment
contents.
Ils ont fait des manifestations, des centaines de personnes, et ils disent « Allez-vous-en, on vous veut pas ici ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont très peur que Trump fasse fermer la frontière entre Tijuana et les États-Unis.
Et là, ce serait eux qui seraient pénalisés.
Mais oui, parce que cette petite ville de Tijuana vit à cause des États-Unis. Il y a beaucoup de travailleurs, enfin de gens qui travaillent aux États-Unis, qui chaque jour traversent la frontière pour aller travailler. Il y a beaucoup de tourisme aussi, etc. Et ils se disent, si jamais la frontière ferme,
c'est nous qui allons perdre.
C'est catastrophique. Il y a même des gens qui disent, écoutez, c'est un danger de mort pour l'économie de Tijuana. Bon, ils exagèrent un peu, mais ça te montre l'inquiétude qu'il y a en ce moment à Tijuana. Et donc, les gens sont très mécontents de ce qui se passe. Il y a beaucoup d'inquiétude.
Est-ce qu'il y a eu des affrontements entre les résidents de Tijuana et les...
Pas que je sache.
Et les, comment on les appelle? Les migrants.
C'est les migrants qui sont là. Pas que je sache, mais il y a eu des manifestations et le niveau de mécontentement est très, très élevé. Et effectivement, l'armée est là, elle a des fils barbelés et il est possible...
L'armée
américaine est là, il est possible qu'ils ferment la frontière aux routes. C'est pas du tout exclu ce que je te dis là, c'est pas de fausses informations, une réelle crainte.
Oui, et pendant ce temps, il y a un juge qui a suspendu un ordre présidentiel de Trump sur l'immigration, justement.
Oui, c'est un juge de première instance, c'est un ordre présidentiel que Trump avait émis le 9 novembre dernier et il avait dit, écoutez, tous les immigrants qui entrent illégalement aux États-Unis vont être privés du droit d'asile. Je ne les reconnaîtrai pas. Vous devez passer par les postes frontières, par les postes reconnus pour recevoir le droit d'asile.
Et ça, ça a été débouté.
Ça a été contesté, pas débouté. C'est-à-dire que le juge a suspendu l'ordre en disant, effectivement, il y a un problème parce que il n'y a pas de différence entre une entrée par un point désigné, c'est comme ça qu'ils appellent ça, ou non. Donc, je vais prendre la cause en délibéré.
Ah, voilà, OK.
C'est ça. Donc, l'administration... Alors, pour l'administration Trump, le président a le droit de suspendre l'entrée aux États-Unis de tout étranger. Et les opposants de Trump disent non. Le président ne peut pas faire ça. Le Congrès l'a expressément interdit. Et ça constitue une rupture extrême avec les pratiques précédentes. Donc, on en est là en ce moment.
Donc, le juge a pris la question en délibéré.
Oui.
Et le temps qu'il prenne sa décision, il a suspendu dans le fond.
Il a suspendu l'ordre présidentiel.
Très bien.
Exactement.
OK. Parlons un petit peu de Boko Haram. C'est toujours dramatique quand on parle de Boko Haram. Ça, c'est ce groupe islamiste très violent qui sévit au Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, dans le nord du Nigeria. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils ont attaqué différents camps de soldats. Ils ont réussi à tuer 44 soldats et des dizaines de civils près de la frontière avec le Niger. Et ça fait très mal, d'autant plus que les élections présidentielles au Nigeria arrivent dans 3 mois et que le président nigérien dit « Oh, Boko Haram, c'est sous contrôle ». On a presque, c'est presque fini, Boko Haram.
Mais visiblement, c'est pas fini.
Non seulement c'est pas fini, mais en plus, on craint qu'une aile radicale à l'intérieur de Boko Haram, qui est déjà passablement radicale.
On s'entend.
On s'entend, Boko Haram, ça veut dire non à l'éducation occidentale. Ces gens-là, donc, ont attaqué des soldats et ont tué des civils. Ça ne semble pas du tout être vaincu, Boko Haram.
Bon, sais-tu comment ils se financent? Est-ce qu'ils se financent avec le pétrole? Est-ce qu'ils contrôlent une partie du territoire nigérian et se financent avec, à même, parce que c'est un gros producteur, si je ne m'abuse, c'est le plus gros producteur de pétrole d'Afrique, le Nigeria. Donc, il y a des gisements pétroliers dans ce pays-là. Est-ce que c'est avec ça qu'ils se financent?
Ils contrôlent une partie du territoire, donc ils peuvent lever des impôts, ou en tout cas demander, on dirait, des rançons à la population. Je pense qu'ils se financent en partie comme ça. Et il y a probablement, ils font comme probablement d'autres combattants islamistes, ils font du trafic de toutes sortes.
Un peu comme l'État islamique l'avait fait.
Et ils reçoivent fort probablement, je ne peux pas le prouver, mais ils reçoivent fort probablement des soutiens aussi de différents pays, ou de princes, etc. C'est des princes d'Arabie saoudite qui disent, mais ce n'est pas le gouvernement, c'est des princes qui financent ça par en dessous, etc. Du trafic d'armes aussi, ce genre de choses. Je pense que c'est par là qu'il faut aller pour chercher leurs sources de financement.
OK. Parle-nous de la pollution qui réduit, mais alors là, c'est hallucinant. L'espérance de vie.
Oui, bon, enfin, on savait, on se doute bien.
Mais pas à ce point-là.
À l'échelle mondiale, c'est 1,8 années. Ça peut te rassurer, en Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, ces pays-là sont, les pays qui sont là sont en général assez épargnés. C'est évidemment dans les pays en voie de développement où c'est le pire. À Pékin, qui a un des taux de pollution les plus élevés, l'espérance de vie est réduite de 5,7 ans, ce qui est énorme.
À cause de la pollution,
Mais attends, New Delhi, 10,2 ans, juste à cause de la pollution atmosphérique.
Donc, c'est des problèmes de maladies pulmonaires, des problèmes...
Le cancer, exactement. Ce genre de choses, l'asthme. Enfin, bref, les gens vivent beaucoup moins longtemps. 10 ans à New Delhi. Et les autres villes indiennes sont dans ce cas-là aussi. Il y a beaucoup de villes à travers le monde où l'espérance de vie est très réduite. Mais ça peut te consoler. Ce qui est terrible, c'est que c'est maintenant la première cause de mortalité chez les êtres humains, la pollution atmosphérique.
Ah oui?
Oui, oui. Ah oui, en termes de réduction d'espérance de vie, oui. J'ai des comparaisons ici. Le tabac, à l'échelle mondiale, ça réduit l'espérance de vie de 1,6 ans. L'alcool et les drogues de 11 mois. Et on a comptabilisé là-dedans la guerre et le terrorisme, 22 jours.
Mais la pollution atmosphérique, 1,8 ans.
Ça touche tout le monde, la pollution atmosphérique.
Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, comme quoi, il faut continuer à s'occuper de ça.
Absolument.
Hein, respirer du bon air frais.
Ben, ici, on a quand même... relativement de la chance, même si parfois on a des problèmes.
Des petits problèmes de smog, notamment.
Exactement.
Voilà. Loïc Tassé, c'est toujours un plaisir, mon ami. On se reparle demain.
À demain.
À demain. C'est Paul Oud qui s'amène dans un instant.
Voilà.